Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Le témoin de ce vendredi, Slimane Zeghidour.
Est-il encore temps d'arrêter le mouvement? Est-il possible d'obtenir plus de précisions? Combien sont-ils? Où sont-ils?
Il est urgent d'assécher le bocal en regroupant les populations dans des camps spécialement aménagés et sous notre contrôle permanent.
Notre invité a été modelé par la guerre d'indépendance. Il en est le jumeau. Il a à peine plus d'un an quand se déclenche l'incendie de la Toussaint 1954. Il aura fallu que le FLN intervienne pour que la France accourt jusqu'aux pentes de sa Kabylie. Il lui est soudain promis construction, instruction. Mais le soir, les modernisateurs disparaissent et ce sont les Moudjahidines qui surviennent. Le jour, c'est le Constantinois. La nuit, la Wilaya 2. Pour purger ce territoire incontrôlable, l'armée française, en 1957, met en place, hâtivement et de son propre chef, d'innombrables camps de regroupement. Un matin, Slimane Zeghidour, 4 ans à l'époque, doit quitter la Meshta. La famille n'a pu emporter que les gros baluchons que porte son mulet. En quelques heures, il passe d'une campagne reculée, où on laboure encore à l'arrière, à une zone retranchée qu'on ravitaille par avion. Il faut alors autant de force que de souplesse pour survivre. Slimane perd tour à tour un, deux frères, une sœur. Il est celui dont la famille attend qu'il trace une nouvelle route. La vie au camp n'est pas facile, mais c'est là qu'il découvre, outre le pantalon et la radio, l'école. C'est étrange, dans cette partie du pays qui semble vouée aujourd'hui encore au délaissement, il a fallu la guerre d'indépendance pour que les Algériens rencontrent pour la première fois des Français, un peu tard sans doute.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Slimane Zeghidour, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste, rédacteur en chef à TV5 aujourd'hui, et puis né dans ce Djebel complètement oublié, qui n'était pas sur les cartes Michelin, et vous racontez vos premières années dans un très très beau livre, c'est le plus beau de vos livres, c'est publié aux Arènes, « Sors, la route ». T'attends. C'est une formule qu'avait votre mère qui était volubile d'habitude, sauf quand il s'agissait de parler de cette période bouche close, n'avale pas les mouches.
Oui, c'était un de ses adages préférés, et c'est vrai qu'elle me le disait au moment de la guerre, où tout ce qu'on pouvait dire pouvait se retourner contre vous. Car il y avait les informateurs du FLN et il y avait les mouchards de l'armée française. Donc il fallait vraiment tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de l'ouvrir. Et quand elle me disait « Sors, la route t'attend », c'était quand je tardais à partir pour l'école du camp. Et elle me le disait d'une telle manière, elle me parlait de la route comme si elle me parlait d'une personne. J'imaginais comme ça, confusément, que la route était une sorte... C'est comme si la route était venue de l'école, à travers les ouèdes et les collines, spécialement pour moi, pour me conduire à l'école, et qu'il ne fallait donc pas la laisser attendre.
Oui, parce que quand vous êtes né dans un endroit que la route n'atteignait pas. Vous qui aimez les cartes, vous avez cherché plus tard sur la carte Michelin. Ben non, El Ouedja, ça n'existe pas. C'est sur les pentes, le pentu pays qui est le mien.
Oui, parce que effectivement, c'est un pays pentu. Les gourbis, les maisons sont pentues, avec 3 paliers planis. Le palier supérieur pour les chèvres, le palier du milieu pour les hommes et celui d'en bas pour les vaches. Et on vivait tous sous le même toit, sans cloison hermétique. Et le fait que ce soit un pays pentu fait que, quand on marche, on se déplace, je m'en rends compte seulement maintenant, sur le moment, évidemment, je n'y pensais pas, puisque je ne concevais pas qu'il puisse y avoir d'autres paysages que pentus. Donc il fallait toujours vérifier où on allait poser le pied. Et lorsqu'on nous a amenés, comme vous le disiez, dans le camp des Hagen, le camp est une cuvette entourée par un cirque de montagne. Et en débarquant dans ce camp, la première chose qui m'a frappé, c'est un plat pays où on pouvait marcher en regardant devant soi et pas devant ses pieds.
Alors, avant d'être déplacé, restons dans le hameau. Vous êtes là parce que votre clan a été repoussé par la colonisation jusque dans un endroit qui ressemble plus à un épouvantail qu'à un endroit qu'on puisse cultiver.
Absolument. Dans notre région Petite Kabylie, les villages sont construits sur les sommets des collines, sur les promontoires. Ça leur permet à la fois de voir loin qui vient et en même temps, ça, comme il pleut beaucoup. Il faut dire que dans la Kabylie des Babors où je suis né, c'est un phénomène hydrographique unique en Méditerranée, il pleut trois fois plus qu'à Brest, c'est-à-dire 1800 millimètres par an. Donc c'est pour les protéger des inondations, on est au sommet. Et effectivement, comme c'est des villages qui sont très pauvres, il n'y a rien à gratter, de loin ils ressemblent à des épouvantails, oui.
C'est pentu, ça glisse. 8 ans avant votre naissance, un événement s'est produit, non loin de là, enfin 50 kilomètres à vol d'oiseau, Sétif. Mais la route ne va pas, évidemment, jusqu'à votre village, elle va jusqu'à Périgordville, qu'il vous arrive de citer. Nous sommes juste après la victoire des Alliés en mai 1945. Branle-bas de combat dans toute la région.
Le car est arrivé de Sétif. Il était criblé de balles. Les voyageurs sont descendus. Il y avait Mohamed Bouaoui. Je lui ai demandé, « Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce car est criblé de balles ?» Il m'a répondu, « Sétif s'est rebellé. Et vous ici, qu'est-ce que vous attendez ?»
Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi de la douani. Il criait, « Au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté. » Et il a pris la route du village des Amouchas et de Périgordville en continuant à crier, « Soulevez-vous, la révolte a éclaté. »
Votre naissance, elle a lieu sous l'ombre portée de ces événements du 8 mai 1945 que le gouvernement français aujourd'hui qualifie de épouvantable massacre, tragédie inexcusable. Qu'est-ce qui s'est passé à Sétif en mai 1945 et quelles répercussions cela a-t-il sur votre famille et votre clan ?
C'était le 8 mai 1945, le jour de la victoire à laquelle les Algériens, pieds noirs et musulmans, ont participé. Donc ce jour-là, il y a une manifestation dans le centre de Sétif. Et dans cette manifestation, il y avait un parti politique algérien qui était un parti nationaliste et indépendantiste. Et profitant de l'euphorie de la victoire et de la promesse faite de libération de tous les peuples coloniaux, un jeune se promenait à arborer un drapeau algérien. Le drapeau des nationalistes. Sur ce, dans la confusion, un policier lui tire dessus, le jeune homme tombe, et là, tout ce qui était refoulé pendant des générations comme violence est sorti. La foule algérienne a foncé sur tous les pieds noirs européens alentour pour les lyncher, tuer et massacrer. Et en réaction à cela, la réaction des autorités françaises, de l'armée, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, mais aussi des milices pieds noirs. Tout le monde a sorti ses couteaux et ses fusils et il fallait tirer sur tout ce qui ressemblait à un Algérien. Et ça a été une bacchanale de violence, évidemment inégale, parce que les Algériens aussi s'attaquaient à des Européens. Et ça a été une violence monstrueuse qui a duré plusieurs jours.
C'est triple les voisins, 8 à 15 000 morts et la route de Sétif, dorénavant, elle est coupée pour votre famille. Si des hommes, comme votre père parfois, émigrent, c'est vers Alger la Blanche pour sculpter son pain. Alors, vous êtes né sous le sceau de la chance, hein, vous avez un an et 3 mois quand commence la rébellion du FLN, novembre 54. Et en 1955, Jacques Soustelle régnant, gouverneur général de l'Algérie, tout d'un coup, vous voyez commencer à apparaître des Français qui disent « on va construire, instruire ».
Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, la première fois que mes ancêtres ont vu des Français, c'était en 1853, c'est-à-dire 23 ans après la conquête, la prise d'Alger en 1830. Donc il y avait Mac Mahon, le général Bosquet et Saint-Arnaud sont arrivés jusqu'à mon hameau natal, j'ai trouvé des documents, pour montrer qui est le nouveau maître, que ce n'était plus le Turc, que c'était le Français. 1853, septembre. On ne les a plus jamais revus dans le coin. Ce sont mes ancêtres, jusqu'à mes parents qui allaient travailler comme métayers à Sétif, chez des colons pour la plupart d'ailleurs d'origine suisse. Mais les Français ne sont jamais revenus chez nous, d'abord parce qu'il n'y avait rien à gratter, puis il n'y avait pas de route carrossable, c'était très inhospitalier. Et voilà que la guerre commence, que ces zones inaccessibles et enclavées deviennent le refuge idéal pour les maquisards indépendantistes. Et c'est là que l'armée française, que la France, que Paris se rend compte que ces paysans du Djebel, il faut faire quelque chose pour eux. Et un siècle après, plus un an, donc 101 ans, ils reviennent chez nous, mais cette fois-ci, pour nous soustraire à l'influence du FLN, nous amener dans leur camp, tactiquement pour priver le FLN de population qui le nourrit, et stratégiquement pour nous franciser.
Avec de grands projets, parce que vous voyez les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens qui vont commencer la construction d'un barrage, Eragen, c'est un ordre très important dans votre vie, tandis que la nuit, le colonel Ahmed Belabeli et ses hommes occupent les villages. Et à peine les Moudjahidines sont-ils partis, le matin, que surgissent les soldats français. Soldats, cette fois.
Salam alaikum, chef.
Alaikum salam. L'Armésienne, elle a signalé.
Hier soir, ils étaient là. Ils ont pris de la nourriture, des galettes, des haricots, tout.
Ah, t'es trop généreux, Méziane. Ils ont pas pris des armes.
Ici, des armes. Non, chef.
Te fous pas de ma gueule, Méziane. Je sais que les Fels ont une planque dans le coin.
Allez, interrogateur général, fouillez-moi tout ça, allez.
Allez, me prends la croix à 10h, ma Eugénino à midi. Allez, les gars, on se dépêche.
Personne ne sait rien ici. Ici, personne ne sait rien.
Mon lieutenant, le gosse, il avait disparu du village. Son frère, c'est un fel, il le voit forcément. Il faut l'emmener avec nous, on va le faire parler.
Le gamin, je m'occupe de Louis.
Non. C'est qu'un enfant, il reste auprès de sa mère. Bon, rassemblement, hein. On décroche.
Allez, on décroche !
Allez, on décroche ! Rassemblement !
Allez, rassemblement. On continue la mission. Direction Mechtareki.
À peu près ce que vous avez connu, Slimane Seguidour, oui. C'est L'ennemi intime, une production franco-marocaine de Syrie. Le Gourbib, vous en avez décrit un peu l'intérieur, mais vous l'avez vécu comme une crèche. C'est un endroit où le bébé reste pendant des mois avant de voir le jour. Et là, il y a des soldats qui violent la crèche.
Oui, le Gourbib, c'est quelque chose de très très rudimentaire, il n'y a aucun meuble, il n'y a pas de table, il y a juste des jarres et des tapis et des couvertures sur lesquelles qu'on étend pour dormir le soir. Il n'y a pas de fenêtre, il y a deux portes, mais il est perçu comme une sorte de temple, de saint des saints. D'abord, il est peuplé de saints protecteurs, de dieux l'art, et il est considéré comme quelque chose d'inviolable. Et quand l'enfant naît, comme ça a été mon cas, on le garde jusqu'à la fermeture de la fontanelle, c'est-à-dire 3 mois. Pendant 3 mois, il est dans la pénombre, il est dans l'odeur du bétail, de la bouse, du lait caillé. Et ce rituel va être brisé quand la guerre commence, quand les rafles, quand les opérations coup de poing amènent les soldats à l'heure du laitier, qui rentrent dans les gourbis, sortent les gens, et là, les parents sont obligés de sortir les bébés avant les 3 mois canoniques. Et du coup, ces rituels millénaires, comme ceux que je décris dans le livre, disparaissent. Vous savez, ça me fait penser à cette scène de Fellini Roma, lorsque des ouvriers creusent dans le sous-sol pour le métro. À un moment donné, leur projecteur éclaire une fresque millénaire. Mais justement, la lumière qui révèle la fresque la fait disparaître.
Une berceuse de Djurdoura, l'une... Offre-lui tes rayons de lumière, dit la mère, qu'il ressemble à ton univers. Dors, mon enfant, en douceur, tu vas grandir lentement.
Ina, elle
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Slimane Zeghidour, qui publie aux éditions Les Arènes, sort, la route t'attend, c'était une formule de votre mère. Alors là, ce matin de 1957, que vous évoquez avec une seule image, parce que les autres souvenirs vous manquent, c'est un départ forcé. On vous dit, vous emportez tout ce que vous pouvez, on va vous mettre dans un camp de regroupement, non loin du barrage en construction d'Eragen. Le souvenir que vous avez, l'image que vous avez?
C'est un lambeau d'image, un peu couleur sépia. Je vois un mulet avec des baluchons couleur un peu orange, un peu sépia. C'est un lambeau d'image. Pas le mulet tout entier avec ses quatre pattes. Non, le dos du mulet, un peu la nuque et les baluchons.
Ben vous aviez 4 ans.
Oui.
Et le camp de regroupement, bah, c'est un parmi 1000 peut-être.
1000.
1000 camps de regroupement en 1957. Et 16 000,
à peu près 16 000 villages vidés.
Ouais. Décision de qui? De l'armée, du pouvoir civil ou de l'armée qui exerce les pouvoirs civils?
De l'armée, de l'état-major, et qui a été avalisé évidemment au plus haut niveau de l'État. Parce que, si vous voulez, dès que la guerre s'est enclenché, c'est la doctrine de la guerre révolutionnaire amenée d'Indochine qui a été appliquée à l'Algérie. C'est-à-dire, si vous voulez, dans cette guerre, ce qui, je m'en rends compte maintenant, c'est une guerre où l'aspect strictement militaro-militaire était très marginal. L'enjeu de la guerre, ce n'était pas de conquérir des territoires ou de récupérer des territoires, c'était de gagner la population. C'est que l'armée française voulait qu'on l'aime plus que le FLN, et nous étions l'enjeu entre le FLN et l'armée française.
Enfin, le déracinement...
D'où l'importance de l'aspect psychologique.
Le déracinement, est-ce que c'est la meilleure méthode? C'est une question que se pose un jeune inspecteur des finances de 28 ans, qui, avec son ami Bugnicourt, entreprend une enquête mandatée par Paul Delouvrier, délégué du général de Gaulle à Alger. Et ce jeune inspecteur des finances, c'est Michel Rocard. Il témoigne bien plus tard, France Culture 2003, la suite dans les idées.
La brutalité tenait dans un systématisme militaire qui faisait que pour tirer au napalm sur les katibas partout, et pour en fait couper, les katibas c'est les compagnies du FLN, pour les couper de la population, il fallait faire cette opération d'avoir la population sous surveillance militaire. L'armée a souhaité que les populations civiles soient déplacées. Et des ordres militaires sont venus, c'est interne à la hiérarchie militaire, sans couverture civile, sans budget. Et on a déplacé les populations vers des villages. Alors, quelquefois, on s'y est pris avec du temps, on a préparé, on avait même ici ou là construit des cabanes en dur. Beaucoup étaient sous la tente, j'en ai vu des quantités sous la tente. Quelquefois, on n'a pas eu le temps de préparer, on a appris qu'une katiba était là, et on préparait une opération pour 2 jours après. On a violemment mis les femmes, les enfants, ce qui restait d'hommes, dans les camions, pour les troupeaux, on les a déplacés, entassés dans des endroits. Et donc, j'ai établi des calculs qui m'ont fait dire qu'il ne pouvait pas y avoir moins d'un million de regroupés au moment où je finissais mon enquête, c'est-à-dire janvier 1958. Que probablement il y en avait déjà 50 ou 100 000 qui étaient morts de faim, notamment parmi des enfants, et que de ce million de personnes, ce million de personnes n'avaient ni récolte en vue déplacée de leurs champs, ni troupeaux, ni même volailles, qui n'avaient rien, et qui n'avaient pas un sou de crédit dans la... C'était effrayant.
Michel Rocard voit son rapport fuité, il manque être révoqué, il est protégé en Conseil des ministres par Edmond Michelet. Quand même, ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, dans ce que lui dit en 2003, c'est qu'il y a une sorte de divergence sur beaucoup de points. Le chiffre d'abord. Il tire court, dit-il Rocard. 1 million, c'est bien davantage.
Absolument. Maintenant, on est à peu près certain qu'il y a eu très exactement 2 350 000. On arrondit à 2,5 millions, ce qui veut dire plus du quart de la population algérienne globale et 40% de la paysannerie du Djebel.
Alors, autre divergence, vous insistez sur l'aspect psychologique de propagande que l'armée voulait utiliser et Rocard dit, mais on voulait nettoyer le territoire pour pouvoir le bombarder au napalm.
Bien sûr, en désignant ces régions comme des zones interdite. Zone interdite était un concept militaire qui supposait que tout civil surpris dans ces zones interdites préfixées était abattu sans sommation. C'était le cas de mon hameau. Mais le but, en contrôlant les populations dans des camps entourés de barbelés électrifiés avec un couvre-feu, c'était aussi de moderniser, je cite le jargon militaire, de moderniser ces populations trop négligées, de les instruire, donc de les franciser pour finalement intégrer. D'ailleurs, le mot intégration a été inventé, on ne le rappellera jamais assez, pendant cette période-là par Jacques Soustelle en 1955.
Mais Michel Rocard décrit une situation effrayante. Sans doute l'a-t-elle été au début, mais quand vous la regardez rétrospectivement, vous vous souvenez de mon pantalon, mon premier pantalon, la radio, l'école, avec un soldat instituteur dans un premier temps, et puis ensuite Madame Cabanel. Ah, Madame Cabanel.
Et oui, j'ai effectivement dans le camp, et j'ai vu un avion avant d'avoir vu un vélo, par exemple. Parce que le camp, à un moment donné, était retranché, il était approvisionné par avion. Et j'ai vu, et les premiers Français que j'ai vus de ma vie, c'était des soldats. Avant Madame Cabanel, qui était une métropolitaine, qui était venue à titre du volontariat pour être institutrice, elle est venue de Mont-de-Marsan, où elle a fini sa vie. Mes deux premiers instituts étaient des bidasses. Je revois encore leur calot, leur uniforme. Et c'est eux qui étaient nos premiers instituts, sous une tente plantée par l'armée. Et c'est grâce à eux que j'ai appris les rudiments de l'alphabet, puis de la lecture et donc du français. Et c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui ici en train de vous parler. Et c'est aussi dans ce camp que nous avons découvert pour la première fois des légumes que nous ignorions totalement, les carottes, ou des fruits comme les bananes, les oranges, les pommes, nous n'avions jamais vu ces produits. Autre chose, changement radical, dans le village, nous produisions nous-mêmes ce que nous mangeions, l'orge, le blé, les figues sèches. Et dans le camp, nous ne produisions plus rien, nous mangeions des produits finis. Nous achetions du pain français, on l'appelait comme ça, le pain français, c'est-à-dire la baguette, de la semoule déjà moulue et traitée. Et tous ces produits que nous ignorions, nous leur avions donné un vocabulaire nouveau qui est un vocabulaire français déformé. Nous avions donc changé même de langue.
Alors ce qui est advenu de vous, vous le raconterez peut-être un jour dans un autre livre, Slimane Zeghidour, vous allez devenir plus tard dessinateur, journaliste. Mais avec cette obsession quand même de raconter ce qu'il est advenu à votre village. Vous auriez bien voulu convaincre les autorités algériennes que cette Mechta méritait d'être électrifiée, d'être accessible, que l'eau devait y venir, que la vie agricole pouvait peut-être y renaître. Et...
Écoutez, je peux le dire maintenant, je crois que la lutte pour ma Mechta et les Mechta alentours, la Mechta de ma mère, de mes oncles, a été la seule cause vraiment politique pour laquelle je me suis battu, si je puis dire, parce que je n'ai jamais admis le fait que ce barrage que j'ai vu construire, dans lequel mes oncles et mon père ont travaillé, ce barrage, nous n'en avons jamais goûté une goutte d'eau et nous n'avons jamais vu une étincelle d'électricité.
Du fait de l'incurie des satrapes du gouvernement incapable d'Algérie ?
Mais à ce niveau, ce n'est plus de l'incurie. Imaginez qu'il y a des mechtas qui sont à 6 km du plus grand barrage hydroélectrique d'Algérie et il n'y a pas eu d'électricité. Je me suis battu à ma manière avec des articles. J'ai publié des articles en France, notamment dans la revue Géo. Mais dans la presse algérienne, j'ai donné des interviews avec le secret espoir que ça provoque un sursaut de dignité chez les satrapes et autres bureaucrates et responsables et autorités dites compétentes pour au moins apporter un peu de route. On a promis à mes oncles qu'on leur apporterait le courant électrique.
Ils ont acheté
ont acheté des télés et un frigo dont je publie les photos dans la Meshta. Ils sont morts, paix à leur âme. Ils n'auront jamais vu ni l'électricité, ni la route, ni l'eau.
Courte. Mais sur la photo que vous publiez, à côté de la télé qui ne marchera jamais, du frigidaire qui ne sera jamais mis en route, il y a un drapeau algérien.
Oui, parce que ce sont des patriotes vraiment au niveau le plus naturel. C'est un rapport au terroir, à la glèbe, au paysage, au ciel, au soleil d'Algérie. Ils ont souffert, on peut le dire aujourd'hui sans grandiloquence, de cette guerre, plus que tout le monde. Car quand on dit que la guerre d'Algérie, officiellement, on dit qu'elle a fait 1 million de morts, ce million de morts, ce n'était pas des moudjahidines. 99% des morts de la guerre d'Algérie sont des civils.
Et une guerre civile suit. Et la zone où vos oncles sont encore va être de nouveau évacuée. Elle est interdite. S'y cachent de nouveaux moudjahidines. Vous y faites un retour furtif. Vos cousins hésitent beaucoup à vous accompagner. Et la dernière phrase de votre livre, vous vous en souvenez ou je la cite ? Je n'aurai même pas à déposer la clé sous le paillasson car il n'y a plus de porte. Et ça, j'insiste. Ni à éteindre la lumière, car de lumière, il n'y en aura point eu. Merci à vous, Slimane Zeghidour, aux éditions Les Arènes. Ce très beau livre sort, La route t'attend. L'émission était préparée par Franck Olivard, avec à la technique Florent Beauvalet, et la réalisation, c'était Valérie Aestaray. C'était la dernière de la série de rediffusion de la Marche de l'Histoire de cet été. Nous nous retrouvons en direct lundi 28 août, si vous le voulez bien.